Vous écoutez, on lit pour vous.
Y a-t-il une fin à la violence? Une chronique d'Elsa Pépin, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires. On parle du cycle de la violence en référence à son éternel retour et à la difficulté pour ceux qui y sont pris d'en sortir. La violence sans fin, tel un cercle de l'enfer dont on ne sort jamais, est au cœur de Nord Sentinelle, où elle est transmise de père en fils et de rouge, irriguant une guerre interminable. Après son extraordinaire sermon sur la chute de Rome, concours 2012, Jérôme Ferrari retourne en Corse avec Nord Sentinelle, un roman tragicomique sur une attaque au couteau menée par Alexandre Romani dans le ventre de l'étudiant vacancier Alban Genevet à cause d'une bouteille de vin introduite illégalement dans son restaurant. On entre dans ce roman, au sous-titre évocateur de « Conte de l'indigène et du voyageur », comme on descend aux abîmes, alors qu'il est question dès l'introduction des innombrables calamités qu'apporte toujours avec lui le voyageur. Qu'il soit aventurier cupide, conquérant ou touriste, le visiteur détruit les lieux où il pose pied et, peu importe ses intentions, il faudrait le tuer. Avec l'intelligence qu'on lui connaît, Ferrari cède sa narration à ce protagoniste cynique et ambigu, cousin de Catalina, la mère d'Alexandre, un professeur de lycée réinstallé en Corse après avoir passé 10 années à l'étranger. Amoureux de sa cousine, il est amer et dégoûté par la mégalomanie et l'inculture du clan Romani, pour qui seuls comptaient ce qu'ils étaient, non ce qu'ils faisaient. Il y a Pierre-Marie, bandit, mort en 1932, le crâne fracassé par la jeune fille qu'il avait violée. César, l'héritier paresseux qui a dilapidé la fortune familiale. Philippe, la brute, et Alexandre, imbécile, violent et oisif, dénué de tout scrupule. On se délecte des jugements tranchants du narrateur sur moult fléaux de notre ère contemporaine, notamment le « team building », stage de motivation organisé dans la bergerie de la famille Romani, le tourisme de masse, la paresse et l'abus de pouvoir des bien nantis, mais on s'effraie aussi de découvrir la rage qu'il tenaille. Comme s'il n'y avait rien d'autre à brandir face à la bêtise et la violence humaine qu'une autre forme de violence. Peu fiable, ce narrateur est comme les autres personnages du livre, pris malgré lui dans une boucle infernale, un mécanisme où ils sont aussi victimes que coupables. Roman inquiétant, aux accents lyriques, mais surtout teinté d'une délicieuse causticité, Nord Sentinelle est raconté par un être partagé entre l'amour pour son île de beauté, qu'il aurait voulu préserver des intrus, et sa haine et son cynisme violent. Si le roman remonte aux sources d'un machisme et d'une masculinité toxiques qui se transmettent de père en fils, son titre renvoie à l'île de North Sentinel, située dans le golfe du Bengale, peuplée par des habitants qui tuent tout envahisseur, image de l'insularité poussée à l'extrême. D'un banal règlement de compte, Ferrari développe une parabole aux couches multiples sur la justice, la vengeance, la honte, l'humiliation et l'altérité. Teinté d'une ironie mordante, le roman complexe est aussi dur et lucide quant à la fatalité qui enchaîne l'homme à ses maux. En contrepoint au récit de l'attaque au couteau, se joignent d'autres narrations, dont la fable de Richard Francis Burton, premier étranger à avoir pénétré la cité inviolée de Harar, aujourd'hui en Éthiopie, en 1855, et le récit de Shirin, l'amoureuse d'Alban, qui est interrogée au sujet de son compagnon poignardé et s'avère avoir été victime d'un mépris de classe de la part d'Alban et sa famille. Cette fable, où un dieu nommé Djinn et des sorcières tire les fils de la tragédie, ajoute une dimension sociopolitique et fabuleuse au livre, traçant un noir portrait des relations entre les civilisations. Impossible de ne pas être parcouru de frissons et de fous rires en lisant cette satire sombre de notre époque et d'une humanité déchue. De cet enfer, d'un présent où autochtones et vacanciers s'entre-déchirent, de ces damnés pour lesquels aucune rédemption ne semble possible, Ferrari tire un roman au souffle soutenu par une prose magistrale. La beauté côtoie l'horreur dans ce livre foisonnant d'une redoutable efficacité, un petit chef-d'œuvre sculpté à partir de la plus ignoble et triviale des brutalités. La guerre incarnée. Là où Ferrari nous relate la tragédie à partir d'un événement dérisoire, l'écrivain arménien Ovik Afyan part de l'immense tragédie qu'est la guerre pour nous faire voir son vrai visage au quotidien. La violence y est aussi exposée dans toute sa nudité, mais dans un décor loin du cynique sarcasme, plutôt du côté de l'allégorie romantique. À partir de scènes de la vie ordinaire de gens pris dans de longues hostilités, Rouge trace par touches successives un portrait multiple aux accents existentiels des répercussions des conflits armés sur la population. Divisé en chapitres, de l'année 2000XX ou de l'année 1009X, le roman se concentre sur l'histoire d'amour entre Aram et Arous, qui peigne et danse pendant les belligérances et dont l'existence basculera lorsqu'il tombe sur les cadavres de deux enfants. Un garçon arménien et une fille azerbaïdjanaise. Le choc sera immense, comme tous ceux que subissent les personnages de cette fresque funeste et colorée. Leur amour et leur art, brandis contre le conflit, seront, comme le reste, transformés par les affrontements, parce que la guerre change tout, nous rappelle Afyan. L'auteur additionne les points de vue et les histoires dans ce roman tissé d'aphorismes poignants mais aussi fantaisistes pour nous faire vivre de l'intérieur une réalité innommable. Jamais la cruauté ne devient un spectacle ni un drame sur lequel s'apitoyer. Elle est incarnée dans des vies humaines. Publié à l'origine en 2020, un mois après la fin de la Seconde Guerre du Haut-Karabakh, ce livre est traversé des secousses de catastrophes cauchemardesques. Enfants pris en otage, femmes violées, gens qui perdent des membres, qu'on imagine inspirés du réel. Poésie et humour se mêlent toutefois aux récits traversés par des questions ouvertes telles que les gens s'aiment-ils pour éviter les guerres ou les guerres se produisent-elles pour que les gens s'aiment? Afyan ira même jusqu'à écrire que la guerre incite les gens à aimer davantage, à s'accrocher plus fermement à la vie, à aller de l'avant avec plus d'obstination, à résister plus résolument. Une façon de dire que la vie et l'amour sont plus forts qu'elle. C'était Y a-t-il une fin à la violence? Une chronique d'Elsa Pépin, parue le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.
Rayonner la gratitude, un texte de Linda Priestley, paru à l'été 2023 dans le magazine Bel Âge. Chaque année, des amis se réunissent chez l'un d'entre eux pour souligner leur amitié. 43 ans ce printemps dernier. Se reconnecter, se donner des nouvelles et surtout se faire du bien. On va au-delà de ce qu'on partage sur Facebook. On se dit les vraies affaires, les bonnes comme les moins bonnes. Puis on rit, on s'épaule, on compatit, raconte Marie, lectrice de Bel Âge. Ayant traversé plusieurs tempêtes cette année, j'ai annoncé d'emblée que chaque mauvaise nouvelle serait accompagnée d'un remerciement, à commencer par celui d'avoir des amis d'aussi longue date avec qui je m'entends à merveille. On le sait, être reconnaissant, c'est gagnant. Le psychologue américain Robert A. Emmons, l'un des premiers scientifiques à étudier le sujet il y a 20 ans, a démontré que le simple fait d'apprécier sa bonne fortune était effectivement champion pour le moral. Depuis, d'autres études ont appuyé ces découvertes. Certaines vont même rapporter des bienfaits physiques, comme la régulation de la pression artérielle. Si ressentir de la gratitude est un baume pour le cœur, l'exprimer à voix haute aiderait à réduire les symptômes de dépression, à favoriser un meilleur sommeil et à augmenter l'estime de soi et la satisfaction personnelle. Verbaliser sa reconnaissance envers sa famille, ses amis, ses conjoints, ses collègues et ses connaissances renforcerait les liens. Mieux, ceux qui entendent ces remerciements, comme les amis de Marie, vont ressentir des sentiments chaleureux et éprouver à leur tour l'envie de dire merci. Oui, c'est contagieux. Communiquer sa reconnaissance par écrit est aussi une bonne façon de se concentrer sur le positif. Cela dit, pour certains, transcrire chaque jour ses remerciements dans un cahier de gratitude ou sur des post-it qu'on place ensuite dans un pot d'appréciation, comme ceux aperçus sur TikTok, c'est non merci. Heureusement, rédiger un court texte ou un courriel environ une fois par semaine peut suffire. Merci la vie. Par ailleurs, ça ne prend qu'une petite dose de gratitude par jour pour générer des bienfaits, disent les experts. Un simple mot, jusque j'ai de la chance à cause de, qu'on se dit tous les matins au saut du lit ou au moment d'allumer son ordi de travail, par exemple, peut nous mettre de bonne humeur. Quand on en fait une habitude, c'est là qu'on voit une différence qu'on peut certainement développer, a écrit Joel Wang, professeur de psychologie à l'Université de l'Indiana, dans l'un de ses articles à propos de la gratitude. La clé, selon lui, être le plus précis possible au moment d'adresser ses merci à la vie ou à une personne. Évoquer les raisons spécifiques de sa reconnaissance renforce l'expérience de la gratitude et fait prendre davantage conscience de notre chance. Pour ma part, je dis merci à l'été d'être là, aux occasions de voyager, à mes proches, à mon voisinage, à la nature tout près. Et vous? Engendrer la reconnaissance. Le Dr Wang a créé une liste de 100 questions auxquelles on peut répondre selon les besoins du moment, par écrit si possible, afin d'approfondir la réflexion et de tenir un registre de nos bénédictions qu'on pourra consulter plus tard à notre guise. En voici 5. 1. Quels événements positifs ont eu lieu cette semaine? 2. Qu'est-ce que j'aime de mon quartier? 3. Quelle activité me plaît particulièrement? 4. Qui contribue à me faire sourire? 5. Quels obstacles ai-je surmonté? C'était « Rayonner la gratitude », un texte de Linda Priestley, paru à l'été 2023 dans le magazine Bel Âge.
Microforêt. Entre vertu et lutte contre les îlots de chaleur. Un texte de Sarah Champagne, paru le 28 août 2023 dans La Presse. Dans le milieu horticole, on n'hésite pas à parler d'un boss vert. Le phénomène de microforêt ne cesse de prendre de l'ampleur sur la planète. Au Québec, plusieurs villes ont multiplié les initiatives cet été en plantant des arbres et arbustes sur de petites superficies. Mais est-ce que ces microforêts urbaines ont vraiment un impact environnemental ou servent-elles juste à se donner bonne conscience? Dans le quartier Saint-Roch, à Québec, une cour bétonnée de 500 mètres carrés est en pleine cure verte. Les dalles de béton sont enlevées, le sol est décontaminé, 90 arbres et arbustes sont plantés. En ce moment, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais ça pousse. L'idée est de transformer la cour arrière de l'Université TELUC en jardin du savoir, explique l'établissement. Au bout du fil, l'un des maîtres d'œuvre du projet, Francis Lepage, explique que l'intention est de lutter contre les îlots de chaleur et d'aménager quelque chose de vivant pour les résidents, travailleurs et passants. Afin d'y parvenir, l'université a reçu une subvention de 18 000 $ de la ville de Québec. Juste en face, il y a un très beau parc. On a un groupe de travail en développement durable à l'université. On s'est dit que ça allait ajouter au quartier historiquement ouvrier, le rendre plus attrayant, nous dit Francis Lepage. À l'opposé du bonsaï solitaire, la microforêt consiste à planter un grand nombre d'espèces indigènes, très serrées les unes contre les autres, dans un petit espace de 100 à 3000 mètres carrés. Le tout avec l'objectif de ne pas avoir à l'entretenir ou à l'arroser. On appelle ça la méthode Miyawaki, du nom d'un botaniste japonais dont le concept a fait le tour du monde. À Montréal, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie en a été l'instigateur, avec 4 mini-forêts à son actif. Ce qui était auparavant un terrain gazonné a changé d'allure dans une partie du parc du Pélican, adossée au boulevard Saint-Joseph-Est. Audrey Boulanger-Messier est ingénieure forestière. À cet endroit d'à peine 200 mètres carrés, elle explique que 600 arbres de 30 à 60 cm de haut, dont des érables, des chênes et une trentaine d'arbustes fruitiers, ont été plantés il y a 2 ans. Le tout par des bénévoles, donc à faible coût. On a devant nous un petit air climatisé urbain. Regardez-moi ça aujourd'hui, lance-t-elle avec fierté, en pointant la cime des arbres. Certains doivent avoir atteint au moins 4 mètres de haut. Je suis étonné de constater la rapidité avec laquelle la microforêt a poussé. On voit que le concept fonctionne. Les arbres rivalisent entre eux pour avoir de la lumière. Pas une panacée. Alain Paquette est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Il arrive à poser un regard critique sur le phénomène, même si sa chaire de recherche est largement financée par la ville de Montréal. L'expert résume sa pensée en expliquant qu'on ne peut pas être contre la vertu, que ce n'est jamais mauvais de planter un arbre, mais qu'une microforêt est loin d'être la panacée. Selon lui, il ne faut pas les planter partout. À Montréal, par exemple, il explique que les quartiers plus industriels devraient être favorisés, notamment certains secteurs de l'est de Montréal où la qualité de l'air est généralement moins bonne. À Bordeaux, en France, l'administration a décidé de ne pas en implanter davantage à la lumière des résultats. D'abord, il est absurde de penser que les plantations vont survivre après 12 ans. La moitié des arbres seront morts et c'est naturel. Cependant, il y a du positif dans le fait que les gens s'intéressent aux forêts urbaines. Il y a un apport pour l'éducation et l'accès à des espaces verts. Sur le territoire métropolitain, 10 de mini-forêts ont été plantées dans les arrondissements. Le plateau Mont-Royal, de Rosemont-la-Petite-Patrie, d'Outremont et de Verdun. 9 autres projets sont en développement, notamment dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Pierrefonds-Roxboro. Dans Outremont, le maire Laurent Debois est particulièrement fier de 3 projets, dont un dans le parc Beaubien, comptant 805 arbres et 95 arbustes, entre l'avenue McEachran et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Il rappelle que l'argent pour les microforêts provient du budget participatif de la ville-centre, donc un budget approuvé par les citoyens. Nous n'aurions pas pu utiliser cet argent pour régler notre problème de circulation de transit, précise-t-il. Ça permet de planter des arbres à des endroits difficiles d'accès. Nos citoyens trouvent ça beau. On voit des avantages au niveau de la biodiversité, de la canopée et de la capture du dioxyde de carbone, CO2. On pourra tracer un bilan dans quelques années, estime Laurent Desbois. Inspectrice en horticulture et arboriculture dans Outremont, Stéphanie Paradis ajoute que les microforêts ne vont pas régler le problème des îlots de chaleur à elles seules. Il faut penser en termes de quantité. Mais contrairement aux arbres plantés sur rue, ces petites forêts urbaines vont certainement favoriser les oiseaux, les insectes pollinisateurs. C'est nouveau, on verra avec le temps. On va les surveiller et s'ajuster. C'est certain que notre climat va entrer en ligne de compte, dit-elle. C'était « Microforêt entre vertu et lutte contre les îlots de chaleur », un texte de Sarah Champagne, paru le 28 août 2023 dans La Presse.
Attraction et répulsion, un texte de Simon Joly, Étienne Normandin et Catherine Hébert, paru dans le magazine Quatre Temps, automne 2022, volume 46, numéro 2. Plus que de bonnes odeurs, comme plusieurs autres, les plantes des genres Nicotiana et Citrus fidélisent les pollinisateurs en produisant dans leur nectar des substances particulières, des toxines bénéfiques à faible concentration. Par exemple, la caféine et la nicotine améliorent la mémoire olfactive des abeilles domestiques et des bourdons pour ces fleurs. Ressembler à un insecte. Plusieurs orchidées, dont les Drachea et Caladenia, ont développé des mécanismes pour tromper les insectes. Leurs couleurs, leurs textures et même leurs odeurs peuvent imiter celles de guêpes femelles, notamment des familles Tinidae et Typhiidae. Cela attire les mâles qui essaieront de s'accoupler avec la fleur, collectant au passage le pollen qu'ils pourront déposer lors de leur prochain effort infructueux avec une autre orchidée. Atterrir à l'œil. Contrairement aux humains, les insectes peuvent voir les ultraviolets. C'est pratique pour détecter des patrons visuels spécifiques sur les fleurs qui indiquent où se trouve le nectar, comme chez le zinnia nain, Sanvitalia procumbens. En suivant le chemin indiqué, les pollinisateurs obtiennent leur récompense plus rapidement et les plantes en tirent elles aussi avantage. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Plusieurs plantes, dont le coton et le maïs, émettent des composés volatiles lorsqu'elles sont attaquées par des insectes herbivores. Ces substances, comme les terpénoïdes, ont une double fonction, se défendre contre les herbivores et attirer leurs ennemis naturels, les guêpes parasitoïdes, un partenariat qui avantage autant la plante que la guêpe. L'heure sucrée. Les plantes carnivores du genre Utricularia sécrètent du liquide sucré pour cultiver des bactéries dans leur piège aquatique. Ces bactéries contribueraient à attirer des proies et participeraient à leur digestion. Le gîte et le couvert. La chaleur produite par certaines fleurs peut servir de récompense aux insectes en les protégeant des températures fraîches. Le chou puant, Simplocarpus foetidus, offre par exemple chaleur et nourriture aux diptères et aux coléoptères. Les fleurs héliotropiques, comme le tournesol, sont aussi plus chaudes, ce qui favorise les visites d'insectes. Imiter ses ennemis. Certaines espèces de plantes parmi les passifloracées vont imiter des œufs de papillons sur leurs feuilles, notamment ceux du genre Heliconius. Ces imitations leur servent de défense visuelle pour empêcher la ponte et la destruction de leurs feuilles par les futures chenilles, car les papillons ne pondent pas sur des feuilles qui possèdent déjà des œufs. Défense poilue. Les trichomes sont des poils à la surface des plantes qui servent de mécanisme de défense. Ils peuvent agir comme une barrière physique en réduisant le déplacement, l'alimentation ou la ponte des insectes. Chez la tomate, certains trichomes sont en forme de crochet pour piéger ou empaler les intrus, alors que d'autres sécrètent des substances répulsives. Dures comme le roc. Certaines plantes se protègent en se rendant moins appétissantes. Les feuilles coriaces des mûriers, Rubus bogotensis, sont plus difficiles à mâcher et les larves de papillons les évitent. D'autres plantes accumulent des minéraux comme de la silice et du calcium pour rigidifier leurs feuilles et leurs tiges et découragent ainsi les insectes. Des plantes indigestes. Les plantes sécrètent des substances nocives afin de repousser les insectes nuisibles. Les digitales contiennent par exemple des glycosides qui les rendent hautement toxiques lors de l'ingestion. Des arbres comme le peuplier produisent des tanins au goût amer, en plus de diminuer la digestibilité et la valeur nutritive de la plante. Protection volatile. Les composés organiques volatiles émis dans les plantes quand elles sont attaquées par un herbivore servent de défense ou de moyen de communication. Par exemple, certains légumes crucifères diffusent par leurs racines des composés contenant du soufre qui repoussent les ravageurs. Ces molécules peuvent aussi signaler aux plantes voisines la présence des insectes, leur permettant de mieux se protéger à leur tour. Dissuasion par la forme et la couleur. Les fleurs possèdent des moyens de protection contre les herbivores. Celles de la polémoine visqueuse, Polemonium viscosum, peuvent par exemple être plus étroites et tubulaires afin d'éviter le vol de nectar par des fourmis. La couleur pourrait aussi avoir un effet dissuasif chez certains insectes. C'était Attraction et répulsion, un texte de Simon Joly, Étienne Normandin et Catherine Hébert, paru dans le magazine Quatre Temps, automne 2022, volume 46, numéro 2.